il y a des effets sanitaires du Linky. Pourquoi? Tout simplement parce que avec le Linky, ce qu'on va avoir, c'est chaque appareil électrique va réémettre les radiofréquences. Tout à l'heure, vous avez parlé du rapport de l'ANFR. Ils sont malins à l'ANFR. Ils font leur rapport en leur mesure en laboratoire, tout en sachant pertinemment que ça n'est pas extrapolable à ce qui se passe dans la réalité. Ils appellent ça in situ la réalité. Et j'ai rencontré le 4 juillet M. Bernard Celi, C-E-2-L-I, qui est le directeur de la stratégie de l'ANFR, et je lui ai demandé s'il connaissait l'étude d'Amilcar Mesco. Et il m'a dit oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette étude d'Amilcar Mesco? Eh bien, il révèle que justement, en laboratoire, les câbles ne rayonnent pas. Pourquoi? Parce que les câbles ont tous la même longueur, tous la même section, et qu'il n'y a rien de branché dessus. Alors que justement, chez l'habitant, eh bien, parce qu'il peut y avoir des longueurs de câbles différentes entre la phase et le neutre, parce qu'il peut y avoir des différences de section, c'est-à-dire le diamètre des câbles, et surtout parce qu'il y a des appareils branchés qui créent des déséquilibres, eh bien, à ce moment-là, le CPL qu'on injecte dans les câbles se retrouve dans l'air autour des câbles. Et donc, avec le CPL, ce que vous allez avoir, c'est que vos câbles qui sont dans vos murs, votre ordinateur, votre cafetière, votre téléviseur, au lieu d'émettre seulement du 50 Hz, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il va aussi réémettre, quelque part, ces fréquences de 74 000, de 63 000 à 74 000 Hz. Et donc, Monsieur Celi, quand je lui ai demandé s'il connaissait l'étude d'Amilcar Mesco, il m'a dit que oui. Mais dans le rapport qui a été publié par l'ANFR, il se garde bien de dire que leurs mesures en laboratoire ne sont pas extrapolables aux mesures in situ, et donc c'est une tromperie. Donc, alors j'aimerais revenir sur la question des incendies, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Pourquoi cette histoire d'incendie est importante? Parce que justement, au niveau de la législation, un incendie, ça ne relève pas de la précaution, mais de la prévention. Et il y a plusieurs articles de loi, enfin qui sont d'ailleurs dans... Vous pourrez avoir tous les détails dans ce qu'on appelle donc les cahiers de doléances, hein, puisque là, c'est tous les arguments juridiques, il y en a 60 pages, comme je l'ai dit au départ. Donc j'aimerais bien que tous les élus qui sont là, vraiment, les signent avant de partir. C'est très important que chaque commune les signe, parce qu'on va les remettre très rapidement. On accélère un peu le tempo. Donc signez surtout, s'il vous plaît, avant de partir, ces cahiers de doléances. Et donc, au niveau des incendies, c'est la prévention, c'est pas de la précaution. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, sciemment mettre en danger, pour la question des incendies, des gens sans avoir des retours de bâton au pénal. Or, M. Bernard Lassus, qui a été cité tout à l'heure, c'est le directeur Linky de RDF, a reconnu le 16 janvier 2016, en direct, sur la radio RMC, il a reconnu 8 incendies causés par les Linky pendant la phase d'expérimentation en 2010-2011. Il dit, donc la dame pose une question sur les incendies, et il répond, on a eu 8 problèmes. Mais un incendie n'est pas un problème. Un incendie peut causer un homicide, c'est-à-dire qu'il peut tuer quelqu'un, il peut vous tuer, il peut également détruire tous vos biens. Je connais une personne qui a eu un incendie qui n'était pas du tout causé par une cause électrique, d'ailleurs elle ne connaît pas la cause, mais en tout cas, dans les milieux ruraux, s'il n'y a personne qui regarde, et ben, toute la baraque brûle et vous n'avez plus rien. Et le problème qu'elle a eu, cette personne, c'est qu'elle avait un plafond de remboursement de son assurance, 13 575 euros. Et elle avait, comme elle était musicienne, une harpe qui valait 10 000 euros. Et ben, elle a été remboursée 13 575 euros pour en remplacer tous les habits, l'électroménager, le mobilier, etc. Donc les incendies, même si ça ne vous tue pas, si ça détruit vos biens, ça va vous mettre à poil. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ERDF, ça a été évoqué tout à l'heure, et je voudrais vraiment y revenir parce que c'est très important. EDF, dans les conditions générales de vente, s'exonère de toute responsabilité en cas d'incendie, de panne et d'explosion. Vous n'avez que 20 jours, si vous avez un incendie, pour prouver la cause, c'est eux. Hein. Et comme aucune assurance ne rend ses rapports en 20 jours, eh ben vous êtes marré. Après, il faut passer au médiateur de l'énergie et ensuite au procès. Et donc, vous ne pouvez pas simplement dire à ERDF, voilà, bon, j'ai ma machine à laver qui a grillé, c'est de votre faute, donc vous m'indemnisez. Pour eux, il faut que vous prouviez que ça vient d'eux. Et comme vous ne pourrez jamais le faire, eh ben, c'est à vous de payer le remboursement des produits. Donc il y a ce problème-là qui est très important, c'est le défaut d'assurance. Et je peux vous dire que pour pas mal de communes, finalement, sachant qu'elles sont propriétaires, donc elles ont la responsabilité des choses dont on a la garde, c'est un motif important pour prendre cette délibération. Le maire de Lobo, il a aussi cette question d'incendie qui lui trotte dans la tête. Et alors, il n'a pas pu venir aujourd'hui et il le regrette. Mais par contre, je l'ai entendu déjà dans une autre conférence et il disait « Mais moi, je ne pourrais pas dormir si je laisse installer des lignes qui, tout en sachant que ça va causer des incendies. » Et notamment, ça va causer des incendies chez les personnes qui ont des vieilles installations électriques qui ne sont pas en conformité. Ça, c'est ce que m'a dit un électricien. Le fait d'augmenter, comme on disait tout à l'heure, le réglage du disjoncteur, ça pose des problèmes, d'après un électricien que j'ai interrogé là-dessus, dans toutes les installations qui ne sont pas en conformité avec la norme NFC 1500 de 2005. Donc ça fait beaucoup d'habitations. Il y a énormément d'habitations qui sont en France vétustes. Il y a des rapports qui sont faits, on dit qu'il y a 300 000 nouvelles habitations chaque année qui deviennent complètement obsolètes parce que ça vieillit trop, etc. Y compris, mais pas seulement. À Paris, il y a plein d'endroits où il n'y a pas la mise à la terre. Enfin, bon, les installations électriques sont vêtues dans beaucoup d'endroits. Et en tout cas, même si vous avez une installation qui date, par exemple, de 10 ans, et ben, finalement, quelque part... enfin, 10 ans, non, c'est bon. Mais 12 ans, 13 ans, ça ne sera déjà pas bon pour le liquide. Donc, on est dans un problème technique. Il y a un autre problème important. C'est la qualification des poseurs de Linky. Ils ne sont pas électriciens. C'est écrit en toutes lettres, puisque dans la lettre que M. Mondebout a envoyée à tous les maires, et pas seulement à quelques maires, il a envoyé à tous les maires, au mois de février, une lettre dans laquelle il dit lui-même que ce sont les gens qui font la relève des compteurs à qui on va proposer une formation pour devenir... poseurs de liquide. Mais là, ils ont les mains dedans, c'est pas pareil.
On recrute des gens sans formation, sans qualité.
Il y a aussi des annonces qui sont passées sur le Bon Coin ou dans d'autres. Et là, j'en ai une par exemple. Je vous la lis. Donc, technicien en compteur d'énergie, description du poste, entre autres, il y a pose des compteurs, expérience. Pas d'expérience demandée dans le métier. C'est écrit en toutes lettres. Et en fait, pourquoi ils font ça ? Parce qu'aucun électricien n'accepterait de poser en 30 minutes un compteur comme ça, 30 minutes chrono, sans aller vérifier justement ce qu'il y a dans l'installation électrique pour voir si elle est capable de supporter cette modification. Notamment, il faut vérifier si la grosseur des câbles est bonne, etc. Donc c'est volontaire. S'ils recrutent des personnes non formées, et enfin qui forment à la va-vite, mais qui ne peuvent pas se rendre compte des énormités qu'elles font. C'est une mise en danger d'autrui, tout à fait. Alors là, on est dans une situation, si vous voulez, où c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'être attaqué de toutes parts, hein, que ce soit les OGM. Ben, là, avec le Linky, si vous voulez, c'est une étape vraiment supplémentaire. À tel point que quand j'ai vu dans la loi de transition énergétique qu'il comptait faire baisser la consommation de 30% en 2030, je me suis dit, ben voilà, en 2030, il y aura 30% de personnes en moins. C'est ça, c'est leur calcul. Je vous assure. Donc, on a beaucoup de raisons de refuser le Linky. Et je voudrais revenir sur la question du Big Data, parce qu'on a ici un spécialiste de l'informatique, c'est André Reynald, qui travaille chez Mozilla, mais qui a aussi des idées concrètes à nous donner pour justement ne pas être la cible et la victime. Donc, peut-être que vous pouvez venir à la table ronde vous asseoir. Parce que malheureusement, je crois que je vais devoir vous annoncer que le film, bon, ben, vous avez compris que... Bon, il y a un problème technique. Alors, je suis en pourparlers avec Stéphane Goudet, le directeur du cinéma. Je lui ai demandé s'il pouvait passer le film. Donc, je n'ai pas encore de réponse. Je ne sais pas si il est là ce soir. Non, donc il ne peut pas donner sa réponse en direct. Donc, regardez quand même le programme du cinéma de Montreuil, parce que c'est un excellent film, franchement. Moi, j'ai été vraiment enchantée de le voir, parce qu'on découvre des choses très importantes.
Il s'appelle comment, le film ?
Les nouveaux loups du web. Il y a également donc, le livre Cyberfragile que vous pouvez trouver sur la table là, juste la table, justement, les livres ont été fournis par la librairie Folie d'encre. Je vous rappelle aussi le livre L'homme nu. C'est vraiment très important de se documenter sur ce que c'est que le Big Data. Donc je vais donner la parole à André Reynald qui va nous en parler aussi, nous expliquer un petit peu. petit peu ce qu'il sait là-dessus.
Juste avant, une seconde, dire que...
Excusez-moi, pourquoi on ne peut pas voir le film ?
Il vient de le dire.
L'organisation n'a pas préparé la projection. Mais je peux vous dire que vous pouvez voir le film également sur notre site de Jupiter Film, en VOD, et qui sortira bientôt en DVD avec les interventions d'André et de bien d'autres, de la Quadrature du Net et d'autres également, avec une multitude d'informations sur les données dont André va nous en dire un peu plus. Voilà, donc allez sur le site de Jupiter, vous avez derrière sur le stand de Jupiter Film des flyers avec l'adresse du site.
Moi j'ai pas besoin de micro, je crois que je suis là. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent poser des questions par rapport à ce qui a été dit ? Et moi j'y répondrai pas.
Ah oui, d'accord, oh là là.
Non, ça va, on avance.
Qui n'a jamais parlé ?
Madame Rigaud, est-ce que vous
pouvez. Elle n'arrête pas de prendre des notes, vraiment je vous admire, hein, parce qu'elle prend des notes et en même temps elle court partout pour le micro. Merci beaucoup à vous de votre dévouement.
Bonsoir messieurs, dames. Je vous remercie énormément pour cette conférence. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis venue pour le Big Data parce que j'ai commencé à lire ce livre et surtout et avant tout parce que nous sommes des habitantes, on l'est venu à plusieurs, nous sommes des habitantes de la ville de la Courneuve, la commune de la Courneuve, et nous habitons devant un data center. Et je voudrais vous dire que c'est la municipalité de Montreuil, le tribunal administratif de Montreuil, qui nous a donné raison par rapport aux nuisances que nous avions et dont nous souffrions à cause de ce data center qui est situé à seulement 10 mètres de nos habitations. Ce data center, je vois que je ne vous connais pas, mais pour nous c'est vraiment fondamental de relier cette information qu'un data center, d'autant plus quand il est implanté en zone urbaine.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Parce qu'il y a des personnes qui
ne savent pas. Le data center, comme Linky, va mouliner énormément d'informations. Quand vous utilisez votre carte ou pour éditer des informations pour votre relevé de facture, tout ce genre d'informations, ce sont des serveurs qui moulinent 24 heures sur 24 sur des ordinateurs. Et donc, ces ordinateurs sont stockés dans un bâtiment qui font comme ici 10 000 mètres carrés, parce que la Courneuve est riche en hangars. Et donc, ces hangars sont convertis à stocker au prix de 14 000 et quelques euros le mètre carré. Ces ordinateurs moulinent pour des entreprises, même vous pouvez louer un mètre carré si vous voulez, et ces machines chauffent.
Quels sont les nuisances justement que vous avez subies ?
Elles chauffent, il faut refroidir, et ces hangars consomment, le nôtre, celui qui se trouve à 10 mètres de nos habitations, consomme une énergie équivalente à une ville de 50 000 habitants. La Courneuve, d'où je viens, en compte 40 000 chaque jour. Et non seulement ça, on peut dire le nucléaire si vous voulez, mais ça ne suffit pas. Ils ont sur ce site l'équivalent de 480 000 litres de fuel. Ils ont également, parce que ça ne suffit pas, parce qu'il faut énormément d'énergie et une qualité d'énergie constante que les techniciens peuvent comprendre, ils ont 8 salles, si on divise celle-ci, ça fera à peu près, on va dire 4 salles comme celle-ci, de salles de batterie au plomb, comme celle des voitures. On appelle ça une zone ATEX, atmosphère explosive. Merci. Et donc, ça libère de l'hydrogène, il y a des problèmes, il y a des risques d'incendie. Et bien sûr, nous, aux riverains, on ne nous a pas tenus au courant. Normalement, on doit faire une enquête publique pour pouvoir autoriser ce type d'installation. Eh bien, à la Courneuve, vous voyez, nos élus sont tellement efficaces, surtout monsieur le maire, de la Courneuve, eh bien, eux, ils ont tout eu avant. Ils ont d'abord démarré leur exploitation, construite bien sûr. Il n'y avait même pas le permis qui était affiché, mais ce n'est pas grave. On est à la Courneuve, je vous précise, hein, aussi. Hein. Donc ça doit aussi compter. Et l'enquête publique a eu lieu après l'exploitation. Et c'est là qu'est intervenu le tribunal administratif et les riverains, bien sûr, qui se sont mobilisés. Il y a du genre, du cas, on est là, les riverains. Le tribunal administratif de Montreuil a conclu que l'enquête et que l'étude d'impact n'était pas suffisante, a suspendu leur autorisation d'exploiter, mais vite fait, vous savez, vite fait, ils ont obtenu une dérogation du préfet pour pouvoir continuer à exploiter, comme si de rien n'était, et en plus, ils ont fait appel de la décision du tribunal administratif de Montreuil, et voilà où on en est.
Il faut donc préciser, Mathilda, que tous les soirs, ils coupent l'électricité dans un des quartiers pour pouvoir alimenter le data center.
Et surtout à la Courneuve, c'est pas très rassurant, surtout quand il s'agit de passer par un gars. Donc, je veux parler de cette mobilisation dont aussi parlait le monsieur. On est là, et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données, cette électricité? Où va-t-on la chercher, qu'elle soit nucléaire? Et on nous parle de l'agenda 21, du fuel et de l'épuisement des ressources fossiles. Ça n'a aucun sens. Nous sommes devenus schizophrènes.
Ouais. Ça rend fou de manière les ondes électromagnétiques à terme.
Donc voilà, comment mobiliser les gens, comment mobiliser les élus, parce que petit détail, mais grave quand même, c'est que le maire, malgré cela, a accordé un nouveau permis de construire pour un data center deux fois plus grand, à la place du site Eurocopter. Et à chaque fois, je suis son poil à gratter, sa bête noire, parce que je dis, monsieur le maire, vous nous parlez de tout, sauf de ce projet que vous avez signé depuis 2 ans, même entreprise, même propriétaire terrien, et donc nous sommes épuisés, mais quand même mobilisés, parce que vraiment... Merci, vous me faites chaud au cœur, parce que je passe devant le maire pour une extraterrestre, parce que je veux le bien de... Alors justement, merci
de votre... C'était de ces élus-là que je parlais, pas de vous évidemment, pas des gens du terrain, mais c'est bien les maires, les députés, les sénateurs, c'est bien eux les coquins, les copains qui font main avec le...
C'est pas eux les responsables, regardez monsieur.
Alors, je voulais juste rajouter une précision, étant donné qu'on a... récemment voté pour qu'il y ait un conseil métropolitain où tous les maires de nos villes se rencontrent. Est-ce qu'on ne peut pas faire pression pour que tous nos maires nous protègent, puisqu'ils sont élus, ils sont payés par l'argent du contribuable et des citoyens, pour qu'il y ait une sensibilité générale sur tous les sujets qui peuvent nous faire peur. Et là, moi, je vous dis, je suis une fille qui est venue du désert d'Algérien. J'ai eu l'électricité qu'à l'âge de 13-14 ans, dans mon bled au désert d'Algérie. Et j'étais toute heureuse de ne plus voir ma mère utiliser la lampe à pétrole et tout. Mais aujourd'hui, j'ai froid au dos et je préfère mille fois ma lanterne qu'on avait avant. Quelque chose qui devrait nous faire notre évolution et nos avancées, elle peut nous tuer, c'est insensé, vous m'avez fait appris beaucoup de choses. Et je suis justement dans une zone qu'on appelle urbaine sensible. Je n'aime pas trop ce mot du mot sensible qui est mal employé, parce que normalement la sensibilité doit faire partie de l'amour et de quelque chose de beau, et on l'utilise pour nous agresser, pour qu'on soit encore plus vulnérable. Je suis seule à élever mes enfants pour réussir. Mes enfants aujourd'hui vont devenir des ingénieurs, mais j'ai deux grandes antennes relais au-dessus de ma tête. Je dors mal et je comprends aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai peur de l'avenir.
Il faut aussi arrêter de
mais parce que sinon...
Je suis d'accord pour la pourriture des politiciens, mais nous, est-ce que nous, ceux qui ont applaudi, ont refusé d'acheter des smartphones, d'acheter des portables à leurs enfants et d'acheter des tablettes?